aussi David Chemla au micro sur Radio Shalom pour vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Sébastien Lévy, qui est le correspondant des Cahiers Bernard Lazare aux États-Unis et qui est aussi membre du bureau de G Street, le mouvement des Juifs américains, comparable à J-Call en France, très engagé dans la campagne pour soutenir Kamala Harris, pour une solution politique au Proche-Orient et tout en étant inconditionnellement aux côtés de l'État d'Israël dans cette guerre qu'elle mène depuis plus d'un an. Donc, Sébastien, bonjour.
Bonjour, David.
Alors, je voudrais avec vous aborder trois questions qui sont liées de toute façon. La première, à trois semaines des élections aux États-Unis, des élections que tout le monde attend, parce que visiblement, toutes les conflits importants qui se déroulent en ce moment sur la planète, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, sont dans l'attente aussi du résultat des élections pour d'éventuelles évolutions dans un sens ou dans un autre. Quel est le climat aujourd'hui, surtout au sein de la communauté juive américaine, puisque vous en faites partie, vous êtes franco-américain, israélo aussi, donc vous avez vos trois nationalités, mais vous connaissez bien la communauté juive américaine, puisque vous êtes par ailleurs militant au sein de G-Street.
Écoutez, je vais d'abord commencer par un tableau global. Au global, c'est que vous avez un match nul en fait, dans les derniers sondages, ce qui est plutôt l'avantage de Trump, parce que s'il y a égalité au niveau national par système des grands électeurs, c'est plutôt à l'avantage de Trump au niveau des grands électeurs. Donc je dirais qu'aujourd'hui, quand vous regardez d'ailleurs le système des paris, aujourd'hui les parieurs, la cote de Kamala Harris est plus élevée que celle de Donald Trump, ce qui veut dire que évidemment, Donald Trump aujourd'hui est plutôt le favori. Donc il y a eu un resserrement récemment, Kamala Harris avait pris un petit avantage après le débat, avantage qui s'est évaporé, aujourd'hui vous avez vraiment un match nul au niveau fédéral. Il y a évidemment une énorme différence entre ce que pensent les juifs américains et la position globale des Américains, puisqu'il y a eu un sondage récent qui a été fait par le J.D. Sillé, qui est en fait l'organisme des juifs démocrates, qui donne environ une préférence pour Kamala Harris sur Trump, environ à 72-25. Si on regarde les fameux états clés, la priorité, enfin le sondage est exactement le même, c'est 71-26, donc il y a une énorme préférence de la part des juifs américains pour Kamala Harris, qui s'explique par le sujet principal aujourd'hui pour les juifs américains, qui les fait voter, ce n'est pas Israël, ça n'a jamais été Israël, en revanche c'est le futur de la démocratie. Ce qui est très intéressant, c'est que le futur de la démocratie n'est pas véritablement une priorité pour l'électorat au sens large, mais en revanche ça l'est vraiment pour les juifs américains, qui explique à la fois une grande inquiétude, une forte mobilisation et un soutien très affirmé envers Kamala Harris. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a mobilisation et inquiétude dans un climat électoral qui est extrêmement tendu, extrêmement serré. L'élection, elle a déjà commencé en fait, puisque le vote par correspondance est déjà ouvert. Aujourd'hui, petit avantage à Trump, ce qui explique également la nervosité des juifs américains dans ce contexte.
C'est dans la ligne de toutes les élections précédentes où les juifs américains votent à peu près aux deux tiers, aux trois quarts pour le candidat démocrate, selon les élections.
Oui, complètement, absolument.
Alors, au-delà donc de ces élections, donc qui se déroulent le 4 novembre, c'est bien cela?
Le 5, dans 3 semaines exactement, jour pour jour.
Jour pour jour, dans 3 semaines. Les États-Unis ont traditionnellement donc très engagé aux côtés d'Israël depuis un an dans cette guerre. Le président Biden s'était rendu dès le mois de novembre, je crois, de mémoire, à quelques semaines après le 7 octobre en Israël, pour la première fois un président américain qui se rendait dans un pays en guerre. Et n'a pas cessé de soutenir l'État d'Israël dans cette guerre, en fournissant des armes, en soutien diplomatique évidemment au Conseil de sécurité, etc. Pourtant, on sent qu'il y a certaines, non pas des frottements, mais deux approches différentes entre celle de l'administration Biden et celle du gouvernement Netanyahou sur la façon de cette guerre se déroule et surtout sur des perspectives de sortie. Où en est-on aujourd'hui? Je sais que pour l'instant, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui devait se rendre aux États-Unis, à ma connaissance, pour l'instant, son voyage a été repoussé. Je ne sais pas si depuis une décision a été prise, puisque Netanyahou s'opposait à son départ. Visiblement, les Américains avaient plus confiance en Gallant pour essayer d'infléchir, disons, la façon dont la guerre se plaçait. Où en est-on aujourd'hui sur ce plan-là ?
En fait, les deux sujets sont complètement liés, David, puisque vous l'avez dit, les États-Unis ont plus confiance en Yoav Gallant qu'en Benjamin Netanyahu, pour une raison simple, c'est que depuis quelques mois déjà, Yoav Gallant estime qu'il faut, il faut une vision du jour d'après à Gaza. En ce sens, il est d'ailleurs épaulé par Herzi Halevi, le chef d'état-major, alors que Benjamin Netanyahu s'y refuse, tétanisé par la perspective de perdre le soutien de Ben Gvir et Smotrich au sein de son gouvernement. Donc c'est vraiment l'œuvre des Américains, ce qui explique d'ailleurs également la crise des mauvaises humeurs, je dirais le mouvement d'humeur de la part de Netanyahu, qui a refusé que Gallant se s'en aille. Il a exigé en fait un coup de fil avec le président Biden, mais aujourd'hui la visite n'est pas reprogrammée. Aujourd'hui, finalement, les positions sont assez figées. Vous avez un gouvernement américain, et en ce sens, avec Gallant et également Herzi Halevi, qui dit que cette guerre à Gaza doit s'arrêter. En tous les cas, il doit y avoir une perspective de sortie. Et dans ce cadre-là, il doit aussi y avoir un accord sur les otages, alors que Benjamin Netanyahu n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il est sûr que la guerre actuelle, en fait, avec le Hezbollah au Liban, et peut-être et la riposte qui aura lieu avec l'Iran, a un petit peu, je dirais, adouci, je dirais, les différentes stratégies qu'il peut y avoir entre le gouvernement américain et le gouvernement israélien, parce que l'urgence aujourd'hui, elle est à la fois de neutraliser la menace du Hezbollah, mais également de répondre à l'Iran. Donc d'une certaine façon, ça bénéficie un peu, je mets avec tous les guillemets de la terre évidemment, ça bénéficie un petit peu à Netanyahou, parce que la pression américaine est un petit peu moins forte. Elle est d'ailleurs d'autant moins forte que les États-Unis, depuis 2-3 semaines, ont jeté l'éponge et ils ont dit que rien ne se passerait sur le plan des otages avant l'élection de novembre. Donc aujourd'hui, les Américains, je pense, ont eu certaines lassitudes de proposer des solutions qui ont toutes été rejetées, à la fois par le gouvernement Netanyahou, mais il ne faut jamais l'oublier, d'abord par Sinoir et le Hamas. Donc les États-Unis, il y a un certain désengagement. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement américain, c'est plutôt de montrer un front uni par rapport à Israël, par rapport à la menace iranienne, d'où le déploiement des batteries anti-missiles balistiques. Donc le différent de fond, il n'a pas disparu. En revanche, le contexte actuel de la guerre fait que ces divergences extrêmement profondes sont un petit peu mises sous le tapis pour l'instant, parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence militaire et diplomatique par rapport à l'Iran et par rapport au Hezbollah.
Effectivement, ce soutien militaire américain va, pour la première fois, entraîner le positionnement, le déploiement de soldats américains sur le sol israélien pour gérer des batteries antimissiles, ce qui serait une première depuis les retraits d'autres pays de la région, comme l'Irak ou l'Afghanistan, il y a quelques années. Et ça, c'est un risque que prennent les Américains, parce qu'on ne sait jamais comment une guerre peut évoluer.
Oui, et puis c'est aussi, alors dans le contexte de l'élection américaine, ça peut être aussi un risque. Alors aujourd'hui, bon, il faut quand même relativiser cette implication qui est extrêmement forte sur le plan des matériels, un petit peu moins forte sur le plan des hommes, puisqu'il s'agit de 100 troupes qui sont déployées. Mais c'est vrai que sur le symbole, vous avez raison, c'est un signal extrêmement fort qui est envoyé aux Israéliens, mais aussi à la région. Ça montre l'engagement américain. Et puis, et surtout, c'est un engagement extrêmement fort et un signal extrêmement fort qui est envoyé à l'Iran. Pour l'instant, ça ne crée pas de polémique ici dans la campagne américaine. D'ailleurs, on en parle assez peu dans la presse américaine. Ça n'est pas un sujet d'ailleurs qui est repris ni par la campagne Harris pour s'en vanter ou pour la critiquer à demi-mot, pas du tout, ni du côté Trump qui pour l'instant n'a strictement rien dit. Donc là, pour le coup, son slogan America First ne va pas complètement en contradiction avec ce qui est en train de se jouer. Donc pour l'instant, il y a plutôt un consensus dans la sphère politique américaine. On verra comment ça évoluera. Donc c'est plutôt un signal extrêmement fort, diplomatique et politique, qui est envoyé à la région. Et ça remontre une nouvelle fois l'engagement extrêmement fort, à la fois personnel, mais aussi de tous les États-Unis, par rapport à la défense d'Israël. C'est vraiment un engagement extrêmement fort et un signal très fort qui est envoyé.
Oui, mais ce signal très fort à la défense, comme vous l'avez dit vous-même, n'est pas un signal au soutien de la politique de Netanyahou, ni par rapport au jour d'après, ni peut-être à la façon dont les Israéliens vont réagir à l'attaque iranienne d'il y a une dizaine de jours, puisque là aussi, il y a une négociation entre Américains et Israéliens sur la riposte israélienne.
Oui, alors il est possible que ce déploiement montre également que les États-Unis ont obtenu un certain nombre de concessions de la part des Israéliens, notamment dans le calibrage de la réponse. D'ailleurs, il y a eu des fuites aujourd'hui dans la presse qui montrent que Netanyahou se serait engagé auprès de Joe Biden que les cibles qui seraient choisies par les Israéliens ne seraient ni les installations pétrolières, ni les installations nucléaires, ce qui était le but des Américains. Donc en ce sens, il y aurait une espèce de donnant-donnant, en disant voilà, déploiement des batteries antimissiles pour réaffirmer l'engagement américain, en échange d'un calibrage concerté des cibles. Après, évidemment, on sait que, et c'est un euphémisme, Netanyahou ne tient pas toujours ses engagements. On peut penser là quand même, vu l'ampleur des enjeux, on peut penser qu'il y a quand même eu un accord au plus haut niveau entre Biden et Netanyahou. Ça a sans doute été d'ailleurs l'objet sans doute de la conversation récente. Il est fort possible que c'est ce qui s'est décidé. Donc il faut voir probablement ce déploiement des batteries militaires dans le cadre d'un accord entre Netanyahou et Biden. J'insiste sur la menace iranienne et celle du Hezbollah. Ça n'enlève rien aux divergences de fond extrêmement fortes qu'il y a entre les deux parties, entre les États-Unis et le gouvernement israélien, sur la conduite de la guerre à Gaza, sur la priorité ou non accordée aux otages et surtout la définition ou non du jour d'après, qui aujourd'hui est complètement inexistante au sein du gouvernement israélien. La peur du gouvernement américain, c'est que le Hamas profite de cette situation puisque s'il y a un vide, s'il n'y a pas d'autorité palestinienne qui reprenne le contrôle de Gaza, c'est le Hamas qui, in fine, restera l'autorité dominante. Ou, à défaut, l'autre option qui est évidemment extrêmement rejetée par les Américains, c'est la perspective d'une colonisation du nord de la bande de Gaza qui inquiète énormément les Américains. Donc, encore une fois, il y a deux fronts complètement différents. Iran, Hezbollah d'un côté, le Hamas et Gaza de l'autre. C'est deux choses extrêmement différentes et les Américains ont vraiment dissocié les deux sujets pour l'instant.
Vous savez, ici en Europe, enfin en France notamment aussi, on reproche aux Américains, ça fait depuis le 7 octobre, ce soutien américain, certes inconditionnel. Malgré ce soutien, les Américains n'ont jamais réussi à imposer quoi que ce soit au gouvernement de Netanyahou. Alors, ce reproche, c'est sur la faiblesse, malgré tout, de cette position américaine qui n'arrive pas à imposer dans la région leur stratégie. Est-ce que aux États-Unis, on entend aussi les mêmes critiques ou pas?
Alors, vous les entendez de façon évidemment radicale sur les campus américains, où là, on est évidemment dans une critique totalement radicale, non seulement de la politique américaine, et non seulement de la politique israélienne, et même de l'existence d'Israël. Mais vous avez, au-delà de ces sphères-là, vous avez, oui, des critiques qui se font jour, notamment au sein du Parti démocrate, essentiellement d'ailleurs au sein du Parti démocrate, où vous avez une aile qui est plutôt pro-Israël. Le Parti démocrate demeure un parti pro-Israël. En revanche, au sein de ce parti, vous avez parlé de J-Street, et au sein notamment de J-Street, oui, vous avez une critique feutrée, non pas sur l'assistance militaire, mais sur le fait que l'assistance militaire ne vienne pas en parallèle avec des fortes pressions pour forcer Israël, non pas à désarmer, mais en revanche à venir avec une vision du jour d'après. Oui, cette critique existe au sein du Parti démocrate, elle existe au sein notamment des électeurs du Parti démocrate, notamment, mais aussi au sein des élus. Ça ne conduit pas aujourd'hui à une remise en cause des accords militaires, des accords de défense et des accords politiques, parce que le soutien à Israël demeure la priorité au sein de ce parti. Mais oui, vous avez un certain nombre de crispations, un certain nombre de frustrations, parce qu'au-delà du cas Israël, ce qui inquiète au sein du Parti démocrate, c'est la notion de force que peut ou pas donner l'administration américaine, parce que rien de pire pour les Américains de montrer une administration américaine qui apparaît impuissant par rapport aux événements. C'est aussi cette critique qui est faite notamment au sein de certains milieux diplomatiques en disant que les Américains ne peuvent pas appeler à une solution sans mettre tout le poids américain dans la balance. Donc il y a cette espèce de dissonance entre l'objectif affiché et les moyens mis en œuvre qui frustre un certain nombre de milieux, à la fois au sein du Parti démocrate, mais au sein du Parti sécuritaire et diplomatique des États-Unis.
Très bien, bon, on va suivre les 3 semaines à venir avec beaucoup d'attention parce que du sort de ces élections dépendent beaucoup, beaucoup de choses dans le monde et aussi au Moyen-Orient parce qu'une administration Trump qui certes est perçue en Israël comme un ami inconditionnel qui a permis la signature des accords d'Abraham il y a quelques années, peut être aussi très dangereuse si elle se manifeste par un soutien inconditionnel à une politique expansionniste israélienne qui, elle, pour le coup, est dangereuse pour les Israéliens elles-mêmes et pour évidemment toute la région. Donc on va suivre ces 3 semaines avec attention. Merci Sébastien pour votre éclairage. Et à nos auditeurs, je dis à dans 15 jours. Ici David Chalmla sur Radio Shalom pour Chronique pour la paix.